hay ocasión de gastar. Je lui suis totalement
Bonjour et bienvenue dans votre émission 100% interactive sur la fréquence de la paix Radio Capi, une émission qui vous permet de vous exprimer. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 11 novembre 2009. Aujourd'hui, nous parlons environnement avec le phénomène de déforestation et dégradation des forêts congolaises, ces forêts qui s'étendent sur 60% du territoire national et qui constituent le deuxième poumon écologique du monde après l'Amazonie. Selon la Banque mondiale, quelques 40 millions de Congolais dépendent directement de 86 millions d'hectares de forêts tropicales sur la centaine de millions d'hectares que compte le pays. La forêt reste une source vitale tant pour les populations locales que pour l'environnement de la planète. Comment y connaissez-vous des problèmes de déforestation dans vos milieux respectifs? Comment faire pour protéger ces forêts et les rendre profitables à la population congolaise et au reste de la planète? Nous en parlons avec Léon Kanoubidi, coordonnateur national de RED, une structure chargée de contrôler la réduction des émissions issues de la déforestation et dégradation tropicale. Vos avis, propositions et questions sont attendues au cours de cette émission, que vous soyez à Kinshasa, à travers la RDC ou à travers le monde. Soyez les bienvenus.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Monsieur Léon Kanoubidi, bonjour.
Bonjour.
Vous pouvez un peu vous rapprocher du micro, comme ça on pourra bien vous entendre. En fait, vous êtes coordonnateur national de RED, une structure chargée de contrôler la réduction des émissions issues de la déforestation et dégradation tropicale. La forêt congolaise s'étend sur près de 60% du territoire national et près de 40 millions d'habitants vivent essentiellement de cette forêt. Y a-t-il risque de forte déforestation, de dégradation?
Oui, à partir du moment où vous parlez d'une population aussi importante qui vit sur le territoire et qui dépend justement de cette ressource pour sa survie, ça signifie qu'à longueur de journée, ils sont en train de s'attaquer à la forêt pour divers usages. Donc il faut prendre des précautions pour que ces populations ne puissent pas détruire de façon irréversible la ressource forestière.
Est-ce que pour l'instant, il y a quand même des craintes à émettre par rapport à ce phénomène-là de dégradation et déforestation avec les 40 millions qui dépendent en fait de la forêt?
Oui, il y a des craintes à émettre parce que ce n'est pas seulement les 40 millions qui s'attaquent à la forêt, mais il y a aussi d'autres causes qui interviennent pour justement pour s'approvisionner à partir de la forêt. Et il faut à tout moment effectivement prendre des précautions pour qu'on ne puisse pas détruire de façon irréversible la ressource.
Mais pour l'instant, est-ce qu'on pourrait un jour se lever et ne plus voir notre chère forêt, par exemple à l'Équateur ou au Conseil occidental vers des caissés? Est-ce qu'il y a déjà une probabilité de disparition de forêt pour l'instant?
Ma réponse là-dessus, c'est que je vais étonner peut-être les auditeurs. Lorsqu'ils regardent l'immensité de la forêt et que vous dites non, il faut contrôler la déforestation et la dégradation, c'est dit mais pourquoi vous voulez contrôler la déforestation et la dégradation des forêts? On veut la contrôler parce qu'effectivement, si il n'y a pas de mesures de sauvegarde qui sont déjà prises tout au long, on arrive toujours à des catastrophes.
Mais pour l'instant, il n'y a pas danger, alors?
Non, le danger est toujours là. Parce que vous prenez la petite forêt dense qui était dans le Mayon. Eh bien, aujourd'hui, si vous allez dans ce coin-là, on ne parle plus que des lambeaux forestiers. Donc, même dans la cuvette, si les mesures de sauvegarde et d'encadrement ne sont pas prises, dans les générations à venir, nous risquons de connaître une situation semblable.
Nous avons notre auditeur qui nous appelle à partir de Bandunduville. Il s'appelle Malonga. Bonjour Malonga.
Et bonjour madame et bonjour à tous les
bonjour.
De la radio.
Encore une fois, bonjour. On voudrait savoir, Malonga, au niveau de Bandunduville, où vous vivez, est-ce que vous avez, vous connaissez en fait des problèmes de déforestation et de dégradation de la forêt?
Effectivement, puisque ici, dans la période passée, il y avait la suspension des déboisements ici par le ministère provincial. Alors, cela est dit, d'abord, selon moi, c'est que j'ai vu...
Oui, on vous suit.
C'est là, s'il y a la déforestation, c'est si que à nos dirigeants, ils ont laissé d'abord la population elle-même cultive la forêt comme elle veut.
Oui, d'utiliser la forêt comme elle veut.
Oui. Le temps passé, il y avait des agronomes qui étaient chargés à distribuer des hectares pour la population cultivée. Mais aujourd'hui, c'est la population elle-même qui cultive la forêt en désordre.
Mais à quoi, souvent quand il y a déforestation, que font les populations avec ce bois? À quoi sert même l'endroit où on a déboisé?
Bon, la population elle-même, d'abord, il y a des chefs coutumiers qui vendent des forêts,
oui.
Des individus qui veulent cultiver ces bois.
Donc pour la culture.
Pour le vendre ailleurs.
Donc c'est plus une question.
Il y a aussi les autorités signent les autorisations d'exploitation de bois, en tout cas en vrac. Il nous arrive ici. En nous montrant les autorisations d'exploitation, qu'est-ce qu'on va discuter?
Malonga, si je vous comprends bien, vous voulez nous démontrer que à Bandunduville où vous vivez, il y a plus un problème, on n'arrive pas à réglementer en fait le déboisement et la dégradation des forêts. Merci beaucoup pour votre contribution. Nous allons nous rendre à Goma, à l'est de notre pays. Bonjour Bissimoa.
Bonjour madame la journaliste et bonjour à tous les auditeurs de la radio Kafir.
Oui, dites-nous, est-ce que vous connaissez ce problème de déforestation et de dégradation dans votre milieu?
En matière de la déforestation et la forestation, vous savez que c'est un problème qui prévaut surtout dans notre pays, en tant qu'Africain. Mais je profite dans cette occasion vraiment de lancer un plaidoyer avant d'avancer, madame la journaliste, le gouvernement central. Provincial. Ici, à Goma, nous traversons une difficulté énorme, justement à des couples, à des milieux universitaires, à propre à l'UNICOM, par la disparition de notre vice-président Thomas Kibus à l'État.
Oui, mais. De votre.
Alors,
on voudrait savoir. Oui. Revenons au sujet.
Que le gouvernement central et provincial nous vienne en aide parce que vraiment cette disparition de notre vice-président vraiment c'est une consternation.
S'il vous plaît, Bissimoa, vous avez dit en fait qu'à Goma vous connaissez ce problème de déboisement. À quoi servent les arbres qui sont coupés et les espaces vides que laisse cette déforestation?
Madame la journaliste, je vous remercie d'abord pour cette optique. Et ce qui concerne les déplacements, vraiment, c'est la volonté. Et nous appelons justement à tous les hommes de la conservation de la nature, et justement, de protéger. Puisque vous voyez que nous n'avons pas pallié au problème sanitaire.
Oui.
Et pas vraiment le déboisement et justement dans notre pays.
Merci beaucoup Bissimoa. On sent que en fait vous faites allusion à une volonté de pouvoir réglementer d'abord le déboisement et aussi la volonté de pouvoir replanter les arbres. Nous allons nous rendre cette fois là à l'Équateur, au nord de la RDC. Bonjour Joël.
Bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capis.
Oui, vous intervenez à partir de Bandaka. Dites-nous Joël, est-ce que vous connaissez ce problème aussi de déforestation? Parce que là-bas, on sait que c'est la forêt dense. Hein?
Oui, ici, nous connaissons ce problème de déforestation. D'abord, par la société Sisorko qui qui coupent les arbres. Chaque semaine, il y a des bateaux qui passent ici avec des grilles.
Oui.
Et à part ça, du côté de la population, avec ceux qui cherchent des grands espaces pour les chats, vraiment, nous connaissons ce problème de déforestation ici.
Oui, et dites-nous un peu, donc, à part l'exploitation pour vendre ce bois, est-ce qu'on n'utilise pas ce bois à autre chose?
Pardon?
Vous n'utilisez pas ce bois, par exemple, pour fabriquer de la braise et autres?
Oui, on utilise également le bois pour la fabrication de braise. Avec ça aussi, il y a la déforestation.
Oui. Et quel problème ça cause que vous soyez en train de qu'il y ait des entreprises qui sont en train d'exploiter la forêt et aussi que les populations coupent les arbres? Quels sont les problèmes que cela pose chez vous à Bandaka?
Oui, ça pose des problèmes dans la mesure où il n'y a pas de reboisement. Alors, les espaces où les bois sont coupés, ça reste vide. Et même du côté de la population, en cultive, il y a plus moyen de recultiver parce qu'une fois les arbres coupés, comme il n'y a pas de reboisement, il y a la diversification.
Merci beaucoup, Joël, pour vos avis.
Parole aux auditeurs.
Nous revenons dans ce studio avec notre invité. Il s'agit de M. Léon Kanumbidi. Vous êtes coordonnateur national de RED. En fait, une structure chargée de contrôler la réduction des émissions issues de la déforestation et dégradation tropicale. Vous avez suivi avec moi les auditeurs. En fait, ils font allusion à ce déboisement et aussi ils ont peur qu'à force de pouvoir couper les arbres, un jour, la forêt puisse disparaître. Est-ce que vous pouvez me donner des garanties qu'avec l'exploitation du bois, de la forêt, et on peut un jour arriver, comme Bandaka, quand même qu'il y a une forêt assez dense, est-ce qu'on peut arriver un jour à pouvoir que la forêt disparaisse?
Nous avons déjà répondu à cette question.
Mais est-ce que c'est parce qu'apparemment ce n'est pas industriel, donc c'est tout à fait, on peut dire que ce n'est pas à grande échelle, et avec toutes ces forêts-là, est-ce que c'est possible?
Nous avons répondu à cette question en disant que lorsque, il faut d'abord distinguer déforestation et dégradation des forêts.
Mm-hmm.
La déforestation, c'est que là où il y avait la forêt, on la coupe totalement, et il y a changement de destination pour cette spécificité-là.
Mm-hmm.
C'est le cas de l'agriculture itinérante. Tandis que la dégradation des forêts, c'est en fait, on diminue les stocks. La forêt est toujours sur pied, mais on a coupé quelques arbres précieux, on a prélevé quelques tiges, donc on se retrouve en présence d'une forêt appauvrie. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des dangers? Oui, il y a des dangers. Du côté de la dégradation, vous vous retrouvez en face d'une forêt qui est moins riche, qui est moins intéressante que celle que vous avez au départ. Maintenant, quant à la déforestation, est-ce qu'il y a danger? Oui, il y a danger parce que chaque année, vous grignotez quelque chose. Chaque année, vous grignotez.
Il y a quand même des grandes pluies. Est-ce que les arbres ne peuvent pas repousser?
Les arbres repoussent justement lorsque on respecte ce qu'on appelle la jachère.
Mmh.
À ce moment-là, la forêt elle-même vient réparer les dégâts qui ont été causés.
Mmh.
Mais si les populations maintenant, à cause de la croissance de la population, reviennent sur les mêmes superficies sans attendre une jachère longue, c'est en ce moment-là qu'on arrive à des destructions irréversibles.
Vous-même, vous avez dit, quand on survole la RDC, on a l'impression que la RDC est inhabitée, parce que les densités de population, ce sont dans des milieux qui sont vraiment, on peut dire, éloignés, et dans la forêt, on ne voit qu'il n'y a personne à part le long des routes. Est-ce que vraiment cette densité de population est un risque à cette grande forêt tropicale?
C'est comme un porte-monnaie, il peut être plein, mais si chaque jour vous prélevez quelque chose et que vous ne remplacez pas, à un certain moment vous serez étonné de constater que votre porte-monnaie est vide. Ici, la forêt, c'est la même chose, elle est immense, on pense qu'on peut se comporter de n'importe quelle façon, couper, détruire, il n'y a rien qui va arriver. Non, c'est pour ça qu'il faut respecter des règles de jeu, des règles de gestion, si on veut que la forêt soit toujours présente et permanente.
Mais nous avons Alain, il est en ligne, il nous appelle de Kalanga. Bonjour Alain.
Bonjour madame.
Alain Karanga, au Kassai Occidental. Dites-nous, Alain, est-ce que vous connaissez là-bas des problèmes de déforestation?
Oui, effectivement, comme vous le connaissez partout ailleurs, dans la province du Kassai Occidental, nous avons le même problème. Et c'est pourquoi il y a quand même quelques projets sur le reboisement. Par exemple, j'ai été visité chez Chikumba.
Oui.
Quand nous sommes arrivés en 1903, les Bondachi, on a trouvé que si sur place, il n'y avait pas un problème, par exemple, de reboisement. Il y a une place. Et à ça, il y a eu, par exemple, l'activité de reboisement des briquetiers artisanaux qui font toujours des briques partout chez Canada. Et on a trouvé que c'était un problème de reboisement qui était sérieux.
Oui.
À cela, on a dû mettre sur pied le problème de reboisement. Et après quelques temps, nous avons trouvé que nous, avant que nous l'avons fait, nous avons commencé à déboiser.
Oui.
Après avoir déboisé, cherchons pour le moment, il reste un désert.
Okay.
Et jusqu'où nous arrivons sur Bachi, on ne trouve même pas de bois. De ce côté, si vous allez vers Sucréji, vous allez vers une tombe de Saint-Bernard, là où il y a une fédération de
briques.
Oui. Et le bois, c'est quand même un problème.
Et maintenant, pour aller chercher du bois, vous devez effectuer combien de kilomètres pour l'instant?
Et pour le moment, le problème qui fait, c'est sur la ville, il y a les gens, par exemple, il y a des mangues, il y a des avocatiers qui étaient, par exemple, le long des routes. Et la population est en train de dévoiler ces arbres pour faire une petite activité de chauffage des briques. Mais pour le moment, on peut aller à des distances un peu plus longues, par exemple, au-delà de la rivière Subaché.
Ça fait combien de kilomètres pour estimer, pour nos auditeurs qui ne font jamais aller à Kananga, ils peuvent estimer. En fait, maintenant, avant, vous faisiez combien de kilomètres et pour l'instant, il vous en faut combien pour trouver du bois?
Oui, pour le moment, avant, on allait même à 4 kilomètres de fer, mais pour le moment, on s'arrête du centre-ville à la rivière Loulou, vous êtes à peu près 15 kilomètres de la ville, et c'est là où les gens
Oui, allez, on vous garde en ligne. Nous allons tout de suite à Kisangani, au nord-est de notre grand et beau pays. Et nous allons rencontrer Charles. Bonjour Charles.
Et bonjour madame.
Oui Charles, on vous écoute.
Oui, je voulais toujours parler
De la déforestation et dégradation.
La déforestation.
Mm-hmm.
Et c'est le remarque ici chez nous à Kisangani, effectivement.
Oui.
Les problèmes, les briques là qui accélèrent aussi le système là.
Oui.
Et un peu les arbres.
Oui.
Faire ça, et auparavant, on avait des arbres par-ci par-là.
Mm-hmm.
Et pour le moment, ce n'est plus le cas.
Oui.
Alors, pour le moment, on commence à faire des kilomètres pour aller chercher les bois. Et ce système là de reboisement.
Oui.
Et assister à la déforestation et des pertes.
Oui, 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 Charles, vous aussi, vous avez ce problème de déforestation parce que vous utilisez le système de briques cuites, de briques en terre qu'on doit cuire par du bois. Est-ce que vous n'avez pas essayé, comme nous a proposé Alain, comme nous a expliqué Alain, de pouvoir d'abord reboiser avant de commencer ce système de briques cuites? Est-ce qu'il y a un programme comme ça?
Oui, bon, jusque-là, on n'a pas encore attendu de ce programme-là. Mais c'est en cours. Alors,
Oui. Le
système-là vient encore perturber, comme on venait de dire, et mon collègue de Kananga.
Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que ce système de briques cuites a plus de danger pour l'instant que de profit?
Oui, effectivement, ça a du danger. Ça a du danger, parce que si on voit le climat, il y a des temps en temps, on remarque que la pluie n'était pas ainsi régulière et en commun.
Mm-hmm.
Les temps commencent à avoir des pluies et des temps et des saisons fraîches. Et c'est un peu perturbé. Alors, on se demande pourquoi c'est là-bas. Effectivement, on est sur terre, on voit, et là, les déboisements.
Mm-hmm.
Ça, c'est pas là qu'ils sont là, ici.
Merci beaucoup Charles pour vos avis, votre contribution à cette émission. Vous nous appelez de la province orientale. Nous revenons à Alain, mais est-ce que vous avez pu trouver une solution pour pouvoir trouver une explication en fait entre ce problème de démoisement et continuer aussi à pouvoir fabriquer des briques cuites?
Oui, en fait les solutions sont trouvées. Par exemple, ici où je suis à Chimumba. Alors, c'est l'heure des réflexions sociales des jeunes. Là, à peu près, on a reboisé plus de 10 hectares d'acacias.
Mm-hmm.
En dehors de ça, nous avons des concessionnaires qui ont eu plus de 20 hectares, plutôt à Chilumba, ici, le sur le village Mumba, je pense à 8 kilomètres de la ville de Kananga, on est là et partout on est en train de reboiser, pour lutter un peu contre ce phénomène. Cette commune n'est rien, mais c'est avantageux comme notre frère là de Bandaka qui a dit, c'est avantageux parce que pour les briquetés, ça ne veut pas qu'ils viennent quelque chose, mais pour l'environnement, c'est quand même...
Un problème, un dilemme. Donc on se retrouve dans un dilemme, il faudrait choisir entre l'environnement ou les briques. Merci beaucoup Alain, vous nous appelez de Kananga au Kasaï Occidental.
Merci Chantal, au revoir.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions sont passivantes, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, sur le site de
pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ta@radiookapi.net.
C'est notre émission Parole aux auditeurs et nous parlons ce mercredi des forêts congolaises et le phénomène déforestation et dégradation. Selon la Banque mondiale, quelques 40 millions de Congolais dépendent directement de 68 millions d'hectares de forêts tropicales sur la centaine de millions d'hectares que compte le pays. La forêt reste une ressource vitale tant pour les populations locales plutôt que pour l'environnement de la planète. Pourtant, ces forêts constituent le deuxième poumon écologique du monde après l'Amazonie. Connaissez-vous des problèmes de déforestation et de dégradation dans vos milieux respectifs? Comment faire pour protéger ces forêts et les rendre profitables à la population congolaise et au reste du monde? Appelez au 081-99-77-088 et nous vous rappellerons, soit vous nous écrivez par internet à l'adresse pa@radiocapi.net. Radio Capi, ça s'écrit avec deux O, des lettres O au milieu. Et dans notre studio, nous avons Monsieur Léon Kanumbidi, qui est en fait chargé du RAID, il est coordonnateur du RAID, le RAID qui est une structure chargée de contrôler la réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation tropicale. Monsieur Léon Kanumbidi, vous avez suivi nos auditeurs, notamment Alain de Kananga, qui dit que malgré qu'ils ont essayé de reboiser parce qu'ils utilisaient les arbres pour fabriquer des briques, mais il n'y a toujours pas eu un équilibre entre le reboisement et la déforestation. Que le conseillez-vous?
Tout ce que je peux conseiller, c'est de continuer et d'étendre les superficies reboisées, parce que là, il a parlé de 10 hectares. Mais le reboisement doit tenir compte des besoins. Si vous avez vraiment besoin de beaucoup de bois, il ne faut pas se limiter à 10 hectares, mais il faut aller à 20, 30 et pourquoi 100. Mais il faut aussi considérer où vous êtes sur le territoire national. Si vous êtes en pleine forêt dense, vous pouvez pouvoir récolter du bois mort qui peut servir aussi à cette activité-là de couille de briques.
Mais lorsque vous êtes quand même
Mais lorsque vous êtes sur des zones de savane où pratiquement pour le moment il n'y a plus de bois du tout, vous n'avez pas d'autre choix que de reboiser, planter les arbres pour pouvoir les récolter.
Et c'est à quelle vitesse? Parce qu'apparemment, on en coupe plus qu'on en plante.
Oui, on en coupe plus parce que on est dans une situation où, justement, il n'y a presque plus de bois et les gens se lancent dans une activité où ils ont besoin de beaucoup de bois. On aurait dû inverser les choses.
Oui.
C'est-à-dire planter d'abord, lorsque les forêts arrivent à maturité, enfin, on se lance à cette activité-là de récolte.
Un exemple concret pour un arbre coupé, il faut en planter combien?
Ça dépend toujours de ce que vous voulez obtenir. Si pour un arbre coupé, vous voulez juste réparer cet arbre-là, vous allez dire, j'en plante un, mais s'il meurt, à ce moment-là, vous n'avez pas gagné. Vous avez intérêt à planter plus, d'aller au-delà pour que, même s'il y a des mortalités, vous puissiez avoir au moins les capitales de départ, mais surtout ce que nous pouvons conseiller en tant que membre de l'environnement, c'est de planter plus pour justement enrichir les stocks.
Oui, mais aussi, il y a certaines forêts qui ont disparu en RDC. Nous avons l'exemple, par exemple, de la forêt qui se trouvait au Mayombe, dans le Bas-Congo. Mais aussi, il y a une forêt qui se trouvait vers le territoire du Limbo, à Bangabane, aussi, c'est au Kasai occidental. Est-ce qu'il y a eu des incidences directes, à part le déplacement des populations qui sont à la recherche, bien sûr, des forêts?
Oui, il y a des incidences directes, parce que lorsque vous avez commencé l'émission, vous avez dit vous-même qu'il y a 40 millions de Congolais qui dépendent de la forêt. Ils dépendent de la forêt en quoi?
Oui, oui.
Ce n'est pas seulement pour le bois, mais ils dépendent aussi de la forêt pour leur nourriture, pour les médicaments, pour l'eau, ainsi de suite.
Mm-hmm.
Et on a toujours tendance de parler de eau et forêt. C'est parce qu'il y a un mariage entre les deux. Si mm-hmm. la forêt disparaît, l'eau n'est plus là. Si l'eau disparaît, la forêt n'est plus là. Donc, il faut que les deux aillent ensemble.
Aille de faire.
Vous comprenez tout de suite que lorsque la forêt disparaît, c'est la catastrophe vraiment pour les populations qui vivent là-bas parce qu'ils ne trouvent plus la nourriture qu'ils trouvaient avant.
Gilbert nous appelle d'Uvira, au Suskivu. Bonjour, Gilbert.
Oui, bonjour.
Oui, Gilbert, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste récepteur parce qu'il y a un retour de son? Merci beaucoup, Gilbert.
Oui, ok, je m'éloigne déjà de
oui. En fait, Gilbert, on voudrait savoir chez vous comment ça se passe, le problème de déforestation et dégradation.
Ah oui, le problème de... Alors?
Oui, on vous écoute, Gilbert.
Allô?
On vous écoute, Gilbert. On a un problème de ligne, nous allons directement à Lubumbashi, au Katanga. Bonjour, Jean-Jacques.
Bonjour, madame. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Jean-Jacques, on vous écoute.
Oui, je voulais intervenir justement pour cette question de la déforestation. Telle que c'est une situation tellement dramatique, même ici chez nous, en province du Katanga. J'ai essayé de visiter les quelques territoires ici, par exemple dans le territoire de Kambove, le territoire de Mitwaba, là où, quand nous avons été jeunes, on voyait vraiment des forêts très denses, mais il y a juste quelques années que nous venons de passer ici en ville, nous sommes rentrés au village, on a essayé de visiter vraiment ces... C'est déplorable, surtout avec les systèmes de champs. Les gens sont en train de couper des arbres un peu en désordre.
Oui.
En tout cas, il n'y a aucun programme de reboisement, ce qui est vraiment déplorable.
Mais vous-même, en tant que citoyen congolais, en tant que louchois, et surtout que vous dites que votre village, votre milieu, vous avez grandi, c'est Kambove, et que vous avez trouvé cette situation, quelles sont les initiatives que vous avez pu entreprendre par rapport à ces situations-là?
Justement, les initiatives, c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai appelé, comme il y a déjà un conseiller sur au studio là-bas, il peut nous dire qu'est-ce que nous pouvons faire, parce que, au fait, faire le reboisement, nous ne sommes pas du domaine, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire, comment s'y prendre, mais néanmoins, nous avons essayé de prodiguer seulement quelques conseils aux villageois, aux gens qui font la braise, ainsi de suite, afin qu'ils pouvaient réduire un peu cette pratique-là de déboisement.
Merci beaucoup, Jean-Jacques, pour votre participation à cette émission. Nous allons à Bruxelles, où on nous appelle par Jean des Dieux. Bonjour, Jean des Dieux.
Oui, madame.
Oui, Jean des Dieux, on vous écoute par rapport à cette préoccupation de déboisement, déforestation et dégradation.
Bon, de ma part, je connais que dans notre pays, cette situation est arrivée. Et notamment à l'Est, c'était pendant la période de la guerre, là, quand les Rwandais sont traversés. Aujourd'hui, c'est un problème de la pauvreté. Mais de ma part, comme spécialiste, moi, je voulais donner au moins des pistes de solutions.
Oui, oui. Vous préparez même une thèse de doctorat sur l'écologie forestière, hein, ce que je cherche.
Oui, si l'écologie forestière.
Oui,
c'est-à-dire, dans notre pays, il y a le code forestier qui a été promulgué depuis le début. Il faut sensibiliser la population sur ce code forestier. On ne peut pas seulement sensibiliser la population parce que la population, pour protéger la forêt, il faut avoir les moyens de surprise pour. C'est-à-dire, il y a toujours la convivialité. C'est-à-dire, toi tu gagnes, celui qui gagne, celui qui perd. Et à ce sens, il faut qu'il y ait le lobbying au niveau international. Parce que comme nous avons le massif de cette forêt est très grande, il faut que le gouvernement ici au palais, comme il y aura ici au niveau de Copenhague, il y aura la conférence là, que nous serons représentés au niveau du sommet du pays, et que nous faisons beaucoup de lobbying, et ce lobbying peut avoir beaucoup de moyens, et ces moyens-là peuvent aider la population qui utilise la forêt, et n'est pas beaucoup utiliser la forêt.
Oui.
Et il y a aussi un autre problème, il y a le problème par exemple de... Et nous parlons de le problème effet mental. C'est l'effet mental aujourd'hui, il y a le manque d'électricité alors que nous avons beaucoup d'eau dans notre pays.
Mm-hmm.
Et comme il n'y a pas d'électricité, et cela augmente le fait que la population s'approvisionne pour faire la cuisine.
Mm-hmm.
Et il faut que nous ayons à utiliser la méthode de l'agriculture de l'agroforesterie. Mm-hmm. C'est-à-dire associer les légumineuses avec les aléas des plantes. Et cela, dans le même terrain, on peut revenir des 10, 5, même 20 ans, 30 ans, tu reviens sur le même terrain, faisant des bons rendements. Je vois, c'est ce qui ça se fait même en Europe.
Mm-hmm.
En un mot, je peux dire normalement, mettre en place des contrôles forestiers efficaces entre nous et nos voisins. Il y a aussi parfois, par exemple, vers l'est, j'ai suivi un jour dans votre radio, il y a les bois qu'on coupe vers l'est du tout qui passent vers l'Ouganda.
Mm-hmm.
Est-ce que nous gagnons? Est-ce qu'on arrive à reboiser dans ces forêts-là? Par exemple, au Cameroun, je vous donne l'exemple du Cameroun.
Oui.
Le Cameroun a plus de 15 sociétés forestières.
Mm-hmm.
À chaque instant, aussi longtemps qu'on coupe, ils sont en train de reboiser. Est-ce que chez nous, on reboise?
Mm-hmm.
Adoption d'une bonne gestion des aires protégées. Il faut augmenter le nombre des aires protégées. Parce que aussi longtemps le nombre des aires protégées sont augmentées, malheureusement, la plupart de nous sont dans la liste noire en période de l'UNESCO. Et améliorer les principes de gouvernance, c'est ce que j'ai dit.
Mmh.
Le gouvernement s'implique dans ce domaine-là. L'implantation des activités de la société civile et des communautés locales. Que la société civile et la communauté locale
mmh.
soient sensibilisées et bénéficient des PC qu'on donne au niveau international.
Oui.
Le ministre venait de dire, on nous a donné autant, il y a ceci. Est-ce que c'est verbal? Est-ce que cela arrive au niveau local?
Mmh.
Et cela permet aux gens de sensibiliser la population pour l'usage, par exemple, de ce que je disais, de l'agroforesterie. Est-ce que l'électricité que nous vendons de l'autre pays, dans de l'autre pays, arrive chez nous? Si nous arrivons à utiliser quelques méthodes que j'ai données, quelques principes, ça
mm-hmm.
peut aider à réduire le fin de l'agroforesterie.
Merci beaucoup, Jean des Dieux, pour vos propositions. Vous nous appelez de Bruxelles en Belgique et vous préparez une thèse de doctorat sur l'écologie forestière. Nous revenons dans ce studio avec notre invité, monsieur, s'il vous plaît, je m'excuse, monsieur Léon Kanoumbidi. En fait, vous êtes chargé de ces structures qui contrôlent la réduction des émissions issues de la déforestation et dégradation tropicale. En fait, on nous a donné plusieurs propositions qui sont assez pertinentes par nos auditeurs, mais nous voudrions quand même savoir, est-ce qu'il y a un lien entre la déforestation et le réchauffement climatique?
Oui, il y a un lien parce que pourquoi la planète s'échauffe? D'après les experts du climat, ça cause l'accumulation de gaz à effet de serre qui sont émis par les activités humaines.
Mmh.
Et il y a une convention, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, qui réglemente justement quelle quantité de gaz à effet de serre chaque pays peut émettre. Mais lorsqu'on considère toute la quantité de gaz...
Les gaz, ça signifie quoi? Parce que quand même, nos auditeurs pourront aussi comprendre, c'est quoi les gaz à effet de serre?
C'est peut-être serre qu'il faut expliquer, parce que gaz, ça c'est tout le monde comprend, c'est quelque chose qu'on ne voit pas.
Mm-hmm.
Mais qu'est-ce qu'on appelle gaz à effet de serre?
Mm-hmm.
Ce sont des gaz qui ont la qualité de retenir la chaleur. Donc la chaleur qui vient du soleil, quand elle traverse ce gaz... Ben, elle est emprisonnée et on constate que la température est en train de monter. Donc, ce sont des gaz qui font monter la température.
Et ces gaz sont produits par quoi?
Justement, c'est ce que je disais, c'est par les activités humaines. Le principal gaz à effet de serre qui est incriminé, c'est le CO2.
Mm-hmm.
Et le CO2, il provient lorsque vous brûlez du bois, lorsque vous brûlez du carburant, lorsque vous brûlez tout ce que nous brûlons ici, des gaz généralement, du CO2 qui va dans l'air.
Mais par une déforestation, quand on coupe les arbres, est-ce qu'il y a du gaz qui est émis?
Oui, quand vous coupez la forêt justement,
mm-hmm.
Prenons l'agriculture itinérante, qu'est-ce qu'on fait? On coupe la forêt, on abat les arbres, on met le feu. Ce feu transforme en fait ce qui était sous forme solide, bois, il les transforme maintenant sous forme de gaz, les CO2 et les autres gaz qui l'accompagnent. Et tous ces gaz s'accumulent dans l'atmosphère.
Mais en cas de dégradation, est-ce qu'il y a aussi des gaz?
Oui, dans le cas de dégradation, c'est la même chose. Dégradation, la différence, c'est tout simplement, vous n'avez pas abattu toute la forêt. Mais le bois que vous extrayez de la forêt sous forme d'exploitation industrielle, ainsi de suite, il y a une partie, effectivement, qui est brûlée et les gaz vont dans l'atmosphère. Il y a une partie qui pourrit sur place et des gaz aussi, les mêmes gaz à effet de serre. Et même ce qui est sorti sous forme de planches, ainsi de suite, on craint toujours qu'à un moment donné, ça puisse subir les mêmes choses, c'est-à-dire être transformé en gaz.
Mais en écoutant quand même tous nos auditeurs, est-ce que vous, qui êtes quand même chargé d'une structure qui s'occupe en fait de pouvoir constater le déboisement, la dégradation, est-ce que vous avez constaté qu'il y a un reboisement effectivement dans notre pays?
Notre structure commence. Oui. La structure veut obtenir la réduction des gaz à effet de serre, c'est-à-dire la réduction de la déforestation et de la dégradation. Comment l'obtenir? J'étais très content d'écouter celui qui m'a précédé, qui a proposé toute une série de...
Les gens des dieux qui appelaient de Bruxelles.
Toute une série de solutions. C'est que, qu'est-ce que nous pouvons faire? Il faut d'abord mobiliser toute la population. Il faut d'abord informer toute la population que la dégradation et la déforestation sont des choses qui ne sont pas encouragées parce que il y a des conséquences telles que nous venons les évoquer il y a quelques minutes. Maintenant, lorsque tout le monde est sensibilisé, il faut pouvoir mesurer qu'est-ce que nous émettons effectivement comme quantité de gaz à effet de serre chaque année et s'engager maintenant à réduire. Donc, c'est là où on va mettre une stratégie en place et tout ce qu'il a cité, en fait, ce sont des options qui vont apparaître dans la stratégie RED qui dit, voilà la quantité de gaz à effet de serre que nous émettons chaque année, sur quels leviers nous pouvons jouer pour pouvoir réduire ces gaz à effet de serre. Nous allons dire, par exemple, il faut intensifier l'agriculture pour que ceux qui pratiquent l'agriculture sur brûlis puissent utiliser le moins de moyens d'espace. Il faut reboiser pour qu'on augmente les stocks de carbone dans notre pays, avec la possibilité aussi, qui est double, d'aller récupérer, d'aller séquestrer du carbone qui se trouve déjà dans l'air sous forme de CO2. Donc, en combinant tout cela va être mis dans la stratégie RED et on dit, vous, à votre niveau, vous déboisez, vous provoquez de la dégradation, de la déforestation, mais voici les alternatives pour que vous puissiez réduire votre volume de dégradation et de la déforestation.
Parole aux auditeurs.
Nous allons encore une fois au sud Kivu, à Bukavu. Bonjour Prédit.
Madame la journaliste, bonjour les auditeurs.
Oui, bonjour Fabi. Quelle est votre contribution par rapport à cette émission?
Ok, je suis d'abord très intéressé par l'émission, mais avec votre autorisation, je voudrais beaucoup plus intervenir des problèmes de la déforestation au niveau du territoire insulaire d'Ijui.
Qu'est-ce qui se passe à Ijui?
Ok, le territoire d'Ijui connaît aujourd'hui un problème très sérieux de déforestation. Cela a été dit depuis 1994, il y a eu la fuite de réfugiés, mais aussi actuellement il y a beaucoup de coupures de bois pour la fabrication de braises, qui sont disent trop rares et trop chères à Ijui, à Bukavu. Il y a le problème de fabrication de briques et la vente de planches.
Des planches.
Mais aujourd'hui, il y a une très forte densité à Ijui qui a permis à ce que la forêt, qui jadis était une réserve protégée, qu'on appelle une amoussissi, soit déforestée. Mais bien sûr, ça a été sous la bénédiction de certains chefs coutumiers qui ont fait une forme forestière qui réservait nécessairement des espèces très rares qu'on retrouvait dans la forêt de l'Amazonie et à Ijui, dont notamment une rare de fleurs au monde qui pesait 25 kilos, qu'on retrouvait seulement à Izmi et dans la forêt de l'Amazonie, qui fleurissait des fois là.
Mm-hmm.
Donc cette plante-là a été vraiment dévastée. Et aujourd'hui, au niveau du territoire du Jus, il y a un problème très sérieux, puisque d'abord, un, malgré ces déforestations qui avaient été causées par les réfugiés,
oui.
Il n'y a eu aucune indemnisation, puisqu'on a considéré que comme ils n'ont pas connu de guerre, donc il n'y a aucune ONG internationale qui s'est intéressée, ni le gouvernement pour aussi intervenir.
Mais au niveau local, Freddy, au niveau local, les populations sur place ont constaté que leur forêt est en train de disparaître. Est-ce qu'il n'y a pas d'action?
Oui, il y a des petites actions des ONG locales que nous remercions d'ailleurs par cette occasion. Il y a les églises, les paroisses qui essaient de sensibiliser la population, mais il y a aussi certaines autorités locales qui essaient de sensibiliser la population afin qu'ils puissent continuer à planter les bois. Mais à mon niveau, je voulais donner, disons, trois recommandations, dont la première est formulée à l'attention de la population et aux associations locales de constituer une entreprise en charge pour la culture des arbres et surtout songer à cultiver aussi les arbres fruitiers.
Oui.
Au niveau de l'autorité, nous leur recommandons de protéger ce qui est encore protégeable en ce qui concerne cette forêt de Nyamususi, qui était une réserve forestière, qui était dans les...
Quand vous dites que les autorités protègent, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Qu'elles fassent quoi?
Et si je voulais dire que, comme nous sommes déjà dans un état de droit, que cette ordonnance loi qui a été violée, nécessairement qu'elle soit respectée et que le laisser de voir ce qu'on peut reconstituer comme limite en ce qui concerne ce domaine forestier des Nyamususi.
Oui, le troisième point.
La troisième recommandation s'adresse aux ONG internationales, à qui nous demandons de bien vouloir intervenir à Ivy, puisqu'il y a vraiment des graves problèmes de sécheresse qui menacent.
Oui. Merci beaucoup, Freddy. Vous intervenez à partir de Bukavu, Sud-Kivu. Bonjour, honorable Henri. Vous appelez à partir de Kinshasa.
Bonjour, madame. Oui, je suis Yamatina.
Oui, quelle est votre contribution par rapport à cette émission?
Ma contribution est la suivante. Je voudrais d'abord rappeler le fait que en 2002, effectivement, nous étions à Sun City dans le cadre du développement durable et nous avons signé des engagements concernant la protection de la forêt équatoriale dans notre pays.
Mm-hmm.
C'est quand nous sommes rentrés de là que nous avons élaboré le fameux code forestier.
Mm-hmm.
Et ce code forestier avait comme principe qui déboise, reboise.
Mm-hmm.
Donc, c'est au gouvernement de faire le suivi et d'appliquer une politique qui va dans l'encontre de prise de position que nous avons défendue à Saint-Cité. S'il y a des sociétés qui déboisent chez nous, cette société paye des taxes. Ces taxes doivent servir au gouvernement pour pouvoir entreprendre des actions dans le sens de reboiser. Mais le problème fondamental, c'est celui de la nécessité qu'a notre peuple, nos populations, d'utiliser ces bois pour les besoins vitaux.
Mm-hmm.
Il faut, naturellement, que le gouvernement, qui est le responsable de tous les citoyens du pays, puisse trouver des mécanismes pour compenser cette nécessité d'utilisation de bois.
Mais en attendant, qu'est-ce qui peut être fait? En attendant que le gouvernement, parce que c'est toujours le même refrain, il faut que le gouvernement fasse ceci, il faut que le gouvernement fasse cela, mais que peut faire la population en attendant?
Oui, la population, effectivement, elle peut faire, mais ce sont des actions tout à fait limitées. Moi, je prends les cas. Si moi, j'ai l'initiative, je dis, bon, je vais reboiser. Il me faut des moyens pour que je puisse aller reboiser. Je ne peux pas planter 10 arbres, tout ça. C'est tout un programme.
Oui.
Tout un programme qui doit être financé.
Oui, honorable Henri, on vous garde en ligne. Nous prenons tout de suite Simon. Il nous appelle de Kikwit Bandoudou. Bonjour, Simon.
Bonjour madame, j'attendais vraiment cet appel parce que c'est un débat pour moi qui est très vital pour l'humanité en général et pour le Congo en particulier.
Oui, et quel est votre constat? Oui,
ma contribution à ce niveau du débat, madame, c'est d'abord de rappeler à la population congolaise que la forêt joue un rôle vital pour l'humanité.
Oui.
Ou quelqu'un cela nous donne la nourriture, parce que la forêt est essentiellement composée des arbres verts. En tant qu'être supposé, ils nous donnent des substances organiques que nous, animaux, sommes incapables de synthétiser. Notre respiration dépend de la forêt. Et puis, la forêt sert d'abri des biotopes, comme on peut le dire en termes biologiques, pour les animaux, les champignons et les chenilles qui disparaissent déjà.
Oui, quand vous dites biotope, qu'est-ce que ça signifie quand même?
Oui, biotope, madame, ça veut dire seulement milieu de vie.
Mm-hmm.
Hein, le milieu dans lequel vit un être vivant.
Oui.
Le milieu physique, donc.
Mm-hmm.
Ah. Et il est très important parce que quand ce milieu est détruit, il est dilapidé, et l'interaction, le rapport entre c'est l'être vivant qui vit et le milieu étant rompu, la conséquence est que l'écosystème lui-même, c'est-à-dire l'ensemble et de milieu de vie et de l'être vivant, se dégrade et c'est l'homme qui en souffre. Donc, je voulais, par rapport à cela, dire que, déjà aujourd'hui, madame, c'est toute la population qui déchante.
Oui.
Hein, la disette, la famine, la perte de l'humus par le sol, ainsi de suite.
Oui.
Donc, à ce niveau-là, moi, je me rallie à un auditeur-là qui a fait l'intervention à partir de Bruxelles.
Oui.
Et même à vos invités qui est dans votre studio là.
Oui.
Nous avons pratiquement fait des homélies que nous devons suivre, mais l'élément spécifique que je voudrais ajouter, c'est celui-ci. Dans l'agroforesterie, il est conseillé d'utiliser surtout des plantes à croissance rapide.
Mm-hmm.
Et là, je m'en vais informer la population que il y a une espèce que le professeur Moussibon de Lilitine a vulgarisé dans notre coin ici, dans le Bandungu, Moringa oleifera lam, une très bonne espèce
qui
a beaucoup de vertus sur le plan alimentaire, sur le plan médicinal et même sur le plan domestique. Vous voyez, donc de telles plantes, si on peut, comme des acacias, si on peut, n'est-ce pas, les cultiver, les utiliser pour le reboisement, eh bien, ça peut donner des résultats en un temps record.
Oui, mais est-ce que Henri, plutôt Simon, est-ce que vous êtes de l'avis de l'honorable Henri qui dit qu'il faudrait nécessairement des gros moyens pour le reboisement?
Bon, moi je pense que gros moyens, oui. Mais si on doit toujours penser à ces gros moyens, madame, j'ai l'impression que ce sera un rêve à l'heure et une utopie que nous n'arrivons jamais à réaliser. Mais comme j'ai, certains sont à pied d'œuvre.
Mm-hmm.
Je connais un ingénieur à Wimmy, ici dans la ville de Tikwit, qui, avec des moyens assez modestes, est en train de soutenir les actions de reboisement dans les silos, dans les groupes. Donc, moi, je pense que c'est plutôt un problème de prise de conscience et des ONG, donc de tous les acteurs non étatiques, de l'État lui-même, de population, de chaque continent, pour une gestion participative, je voulais dire, de notre environnement.
Mmh.
Bon, les gros moyens, c'est l'idéal. Mais quand il n'y en a pas,
donc, petit moyen, on additionne tous les petits moyens, je pense que ça fera des gros moyens. En fait, merci beaucoup, honorable Henri, qui était resté en ligne. En fait, son avis est aussi partagé par Simon, qui se trouve à Kikwit. Donc, tous les petits moyens ensemble. Nous remercions aussi Simon de Kikwit d'avoir participé à cette émission.
Merci, madame.
Parole aux auditeurs.
Oui, encore une fois, avec notre invité, M. Léon Kanumbidi, on voudrait quand même un peu savoir quelle est en fait, si la RDC arrive à protéger ses forêts, qu'est-ce qu'elle gagne en retour? Parce que c'est vrai que c'est la forêt est vitale pour la population de la RDC, mais qu'est-ce qu'elle gagne en retour?
Mais il y a déjà une réponse dans votre question.
Donc, sur le plan mondial, en fait.
Ah, voilà.
Sur le plan local, on sait qu'il faudrait reboiser pour ne pas manquer de bois de chauffage, et ainsi de suite, mais sur le plan mondial.
Sur le plan local, il faut commencer toujours par là. Si nous avons la forêt, Nous avons dit tantôt que la population est à l'aise, celle qui vit au moins au milieu et autour de ces forêts, parce qu'elle bénéficie de beaucoup de services qui proviennent de la forêt. Maintenant, sur le plan international, lorsque vous conservez la forêt chez vous, il y a des avantages aussi qu'on peut tirer. Un de ces avantages, c'est le tourisme. Lorsque vous avez une forêt qu'on ne trouve plus ailleurs, il y a des personnes qui vont faire des milliers de kilomètres, quitter chez eux pour venir visiter votre forêt, visiter votre biodiversité, parce qu'on a dit tantôt que la forêt, c'est le milieu privilégié aussi de la faune. Donc, je ne vous apprends rien, il y a des personnes qui payent vraiment des tickets qui viennent de très loin pour venir visiter les gorilles de montagne, pour venir voir les éléphants, pour venir voir les lions. Et c'est parmi les activités qui rapportent le plus au monde.
Oui.
À part ça aussi, il y a des financements internationaux qui sont disponibilisés pour aider les pays.
Le Brésil reçoit des milliards de dollars pour sa forêt.
Le Brésil reçoit des milliards pour sa forêt, mais ce que les gens ne disent pas, c'est que le Brésil a investi beaucoup d'argent pour la gestion de sa forêt. Le Brésil a même un satellite pour pouvoir photographier régulièrement ses forêts et suivre son évolution. À cause de cette gestion orthodoxe que le Brésil fait de sa forêt, justement, les bailleurs internationaux maintenant viennent en appui pour aider le Brésil toujours à mieux gérer sa forêt.
Alors, qu'est-ce qu'il faut pour la RDC pour qu'elle aussi puisse recevoir ces milliards de dollars, d'autant plus qu'elle est la deuxième réserve de forêt?
Justement, nous sommes sur la bonne voie, c'est que il y a un auditeur aussi qui est intervenu en parlant de gouvernance. Donc, nous devons être classés parmi les pays qui gèrent correctement leur forêt. En ce moment-là, il y a des retombées, il y a des financiers internationaux qui viennent. Mais tout le monde ne le sait toujours pas, mais vous savez que récemment, la Grande-Bretagne et la Norvège ont mis un fonds en place de 200 millions de dollars justement pour aider les pays du bassin du Congo à bien gérer la forêt. Et si nous progressons sur cette voie, d'autres bailleurs de fonds internationaux vont venir pour nous aider sur cette voie. Et dans les processus qui sont lancés comme la REG, pour obtenir la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation.
Oui.
En fait, lorsqu'on intervient dans chaque pays, ce n'est pas le pays lui-même qui dégage les premiers fonds. On travaille sur des fonds qui viennent des organismes internationaux, des bailleurs de fonds internationaux, qui veulent que les études soient menées pour que la forêt soit gérée correctement.
Oui.
Et lorsque ils vous aident à mener toutes ces études, vous arrivez dans une phase maintenant où vous-même, vous pouvez aller chercher de l'argent sur les marchés internationaux, les marchés de carbone. Mais il faut d'abord faire un effort parce que la REG, en fait, c'est pour récompenser les efforts qui ont été accomplis dans les domaines de la réduction, de la déforestation et de la dégradation des terres.
Alain qui nous appelle de Cabaret, au sud qui voit déjà en ligne. Bonjour Alain.
Madame.
Oui, Alain, on vous écoute.
Oui, ma préoccupation est de savoir. Parce que moi, je réfute totalement. Parce qu'il y a un auditeur, il y a un auditeur qui avait dit que c'est une mauvaise, c'est tout l'invité, que c'est une mauvaise volonté de la population. Moi, je dirais que non. Parce que ce sont les autorités elles-mêmes qui ont une mauvaise volonté. Parce que dans le parc des Kaouzidiga, vous verrez dans le chemin qui mène vers Bouniakib, ce sont les autorités, les chefs coutumiers qui eux-mêmes qui donnent de telles injonctions à la population.
Non,
mais à ça, c'est vrai. Je me demande, est-ce que le service destiné à travailler dans ce même angle, est-ce qu'il ne fonctionne pas convenablement? Pourquoi ne pas adopter le système de Rwanda, vous coupez un arbre, vous plantez des.
Bon, merci beaucoup Alain, vous restez en ligne, nous prenons Yvon qui intervient à partir de Kananga au passé occidental. Bonjour Yvon.
Bonjour Madame Chantal.
Oui, on vous écoute.
Oui, merci pour me accorder la parole. Je voulais seulement intervenir pour dire que pourquoi on puisse penser à notre pays, il faut que notre pays puisse penser à garder nos forêts, puisque nous avons des autorités qui doivent s'occuper de ça. Et puis en plus, on se donne des fonds, les fonds ne sont pas destinés, ne sont pas utilisés pour le pour les fins appropriées. C'est ça le problème, puisque nos autorités peuvent commencer quelque chose, mais ils n'interviennent jamais. Oui. Et les populations qui restent dans cette forêt restent toujours dans une difficulté, dans la misère la plus noire, et l'argent part ailleurs.
Oui. Mais Yvon, est-ce que vous êtes de l'avis d'Alain qui pense que ce sont les autorités en fait qui favorisent cette déforestation?
Exactement. Nos autorités, ce sont des actionnaires dans une société qui ne font rien pour la population. Ce sont nos autorités.
Oui, nous allons revenir à notre invité. Merci beaucoup Alain, merci beaucoup Yvon d'avoir participé à notre émission. Monsieur Léon Kanumbizi, vous pouvez un peu nous dire quelle est la part en fait de chaque parti, que ce soit la population et les autorités?
Ben, la part de tout un chacun, il y a d'abord une loi. C'est la loi a été adoptée avec la participation de tout le monde.
Mm-hmm.
C'est au niveau de la loi que nous avons défini les règles du jeu. Ce qu'on appelle le code forestier, qui est complété ou qui doit être complété par les mesures d'exécution.
Mmh.
En ce moment-là, c'est vraiment les troncs communs sur lesquels nous nous sommes entendus. Maintenant, à partir de ça, l'État met en place des services pour appliquer justement tout ce qui est entendu au niveau de la loi et de ces mesures d'exécution.
Donc, ce qu'a soulevé Alain, qui nous appelait du Sud Kivu, il dit que ce n'est pas la mauvaise volonté des populations, mais c'est ces autorités qui les poussent à pouvoir déboiser dans ce cas-là.
Évidemment, lorsqu'on parle d'autorité, le mot est tellement général.
On parlait même des chefs
coutumiers. On prend tout le monde, on les met dans le même sac. En ce moment-là, ça ne va pas. On parle plutôt des chefs coutumiers, c'est-à-dire ceux qui sont sur les terroirs là-bas,
mm-hmm.
qui profitent en fait de la faiblesse des services administratifs pour donner des autorisations qui ne devraient pas donner. C'est de ça, en fait, qu'on parle.
Mm-hmm.
Mais dès que les institutions, les services ont les moyens pour se déployer sur le terrain, les chefs coutumiers n'auront plus la possibilité de continuer à donner des autorisations qui ne relèvent pas de leurs compétences.
Et tout ça est souligné dans le code forestier.
Oui, le code forestier, comme je l'ai dit, c'est des troncs communs. Il trace les lignes. Mais maintenant, il faut mettre en place les services qui doivent exécuter et il faut doter de moyens ces services qui doivent exécuter. Parce
mm-hmm.
que pour une bonne gestion forestière, il y a par exemple un volet qui est indispensable, c'est le contrôle forestier.
Mm-hmm.
Celui qui fait le contrôle forestier, ça signifie, c'est la personne qui évolue sur le terrain pour constater qu'effectivement, on ne touche pas à la forêt lorsqu'on n'a pas les autorisations. Mais il se fait qu'il y a de la faiblesse à ce niveau-là. Pourquoi? Il n'y a pas toujours les moyens pour que ces personnes puissent se déployer partout. Elles doivent être.
Mais surtout, elles devraient être déployées le plus lorsqu'il y a le plus de forêts, lorsque les forêts sont plus denses.
Non, lorsqu'il y a le plus de risques.
Mm-hmm.
Parce que lorsque vous faites le contrôle, si vous voulez contrôler toute la forêt pendant tous les jours, vous allez vous perdre. Mais lorsque vous constatez qu'à tel endroit, il y a des menaces, donc, en ce moment-là, vous orientez votre contrôle vers ces cibles-là.
C'est notre émission Parole aux auditeurs. Nous parlons ce mercredi des forêts congolaises et le phénomène déforestation et dégradation. Selon la Banque mondiale, quelques 40 millions de Congolais dépendent directement de 86 millions d'hectares de forêts tropicales sur la centaine de millions d'hectares que compte le pays. La forêt reste une ressource vitale, tant pour les populations locales que pour l'environnement de la planète. Pourtant, ces forêts constituent le deuxième poumon écologique du monde après l'Amazonie. Connaissez-vous des problèmes de déforestation dans vos milieux? Et aussi, comment faire pour protéger ces forêts et les rendre profitables à la population congolaise et au reste de la planète? Il vous suffit d'appeler au 081 99 77 800 et nous vous rappellerons, soit vous nous écrivez par internet à l'adresse pa@radiocapi.net. Radio Capi, c'est avec deux lettres au milieu. Dans notre studio, nous avons notre invité. Il s'agit de Monsieur Léon Kanumbizi, qui est coordonnateur du RAID. Le RAID, c'est une structure qui est chargée de contrôler la réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation tropicale. Monsieur Léon Kanumbizi, quelle est l'alternative en fait? Parce que la plupart de nos auditeurs nous ont dit qu'il était question de la plupart des populations qui coupaient du bois, c'était plus pour le bois de chauffage. Par rapport à ce bois de chauffage, quelle est l'alternative pour ces populations?
Par rapport au bois de chauffage, il y a plusieurs alternatives qui existent.
Mm-hmm.
La plus connue, c'est l'électricité. Si nous pouvons accroître la distribution, la desserte en électricité à travers le pays, bien, il y a une bonne partie de la population qui recourt au charbon de bois et au bois de chauffage qui pourra réduire sa consommation.
Mais selon la SNEL, il n'y a que 6% de la population qui accède à l'électricité. Donc ça, c'est un projet vraiment à long terme.
C'est ça. C'est un projet à long terme, mais c'est un projet dans lequel il faut investir tout au long, justement, parce que c'est le premier volet vraiment qui est disponible. Cette électricité qui peut provenir des centrales construites à distance, comme on peut aussi construire des centrales hydroélectriques, des micro-centrales hydroélectriques dans le milieu rural, comme cette électricité peut aussi venir de l'éolienne et de l'énergie solaire.
Oui, mais pour l'instant, comme il n'y a pas encore cette structure en place, on utilise le bois.
Non, en attendant tout cela, il y a aussi, on utilise le bois, et un effort qu'il faut aussi mener, c'est de réduire maintenant cette consommation de bois. Et comment on le fait? On recourt à ce qu'on appelle des briquettes. Vous fabriquez des briquettes à partir des déchets qui sont normalement jetés en pire perte. Vous prenez du papier et vous allez autour de la ville de Goma. Des mamans sont organisées pour produire les briquettes. Et au lieu d'utiliser les charbons de bois, maintenant on peut utiliser les briquettes auxquelles sont associées les fours améliorés.
Comment est-ce qu'on peut expliquer cela à nos auditeurs qui ne sont pas du sirop, qui n'arrivent pas à comprendre ce que c'est?
Les briquettes, c'est comme je disais, vous prenez du papier, on les trempe dans l'eau, et puis on les sèche. On constitue une masse maintenant, comme une brique, mais ils sont sous forme de rondelles.
Oui.
Vous constituez maintenant une masse de matière que vous pouvez brûler. Donc, combustible, oui. Au lieu d'utiliser les charbons de bois, vous mettez maintenant vos briquettes sur le foyer.
Du papier d'emploi, alors.
Du papier, les cartons, tout ce qu'on jette.
Même au papier provient du bois.
Tout ce qu'on jette comme papier, au lieu qu'il soit brûlé, on les récupère et on fabrique des briquettes à partir de ça. Comme on prend aussi de l'herbe, des feuilles d'arbres. On fabrique des briquettes.
Nous avons Lems qui nous appelle à partir de Lubumbashi au Katanga. Bonjour Lems.
Bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs de Radio Katanga.
Oui, quelle est votre contribution par rapport à ce thème?
Oui, ma contribution c'est d'abord parce que les instruments d'abord ici à Lubumbashi, la coupe de bois a été réglementée, le gouvernement provincial s'est battu pour réglementer la coupe de bois, mais ce n'est pas du tout suffisant. C'est pas du tout suffisant. Les efforts qui ont été entrepris par le gouvernement provincial, par exemple, prenons l'exemple du village Kachamaga. Il y a 15 km, à 11 km de Lubumbashi, il y a un projet initié par le gouvernement provincial, il y a le reboisement de plusieurs dizaines d'hectares. Plusieurs dizaines d'hectares qui sont déjà reboisés. Mais à part ça, la population aussi du Katanga n'est pas du tout sensibilisée sur l'impact que ça a fait quoi, la coupe de bois.
Oui.
Bah, par exemple, nous, déjà, parce que dernièrement, j'étais au village Sikupa, qui est à 45 km de Lubumbashi. Là-bas, les bois sont coupés en désordre.
Oui.
Mais pour quelle raison? C'est pour fabriquer quoi? Les braises.
Les braises. Merci beaucoup, Lens, pour votre intervention. Mais nous vous gardons en ligne. On écoute Arsène qui nous appelle de Kikwito Banundu. Arsène, est-ce que vous êtes de l'avis, est-ce que chez vous aussi au Banundu, on a tenté à un certain moment de réglementer la coupe de bois?
Ok, merci beaucoup pour l'intervention que vous m'accordez. Ici, chez nous, bon, comme je n'ai pas eu l'occasion de suivre les autres auditeurs, mais je dirais, ce qui nous manque, c'est la politique préventive de tout ce que nous avons comme calamité. Vous savez, l'homme, de fois, moi, je considère l'homme comme un virus qui est en train de détruire tout. Nous, avec les énergies que nous devons utiliser, nous devons savoir comment est-ce qu'on peut prévenir la coupe des arbres.
Oui. On n'a pas tenté de réglementer vraiment cette coupe de bois comme un Lubumbashi.
Théoriquement, peut-être, ça peut se passer dans des bureaux, mais pratiquement sur le terrain, rien n'existe. Rien n'existe, madame, parce que, par exemple, ici à Kikwito, il y a une trentaine, 35 ans passés ici. Toute la ville était entourée de grandes forêts. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que tout est parti. Nous avons presque un rayon de plus de 30 km où il n'y a plus de forêt. Alors, Le problème se pose, un, dans l'agriculture, deux, dans l'énergie.
Oui.
Les énergies, comme venait de le dire notre invité, les énergies, l'énergie qu'on peut facilement utiliser, c'est l'énergie électrique.
Oui.
L'énergie électrique qu'on nous pouvait utiliser ici, c'est la politique de micro
électrique.
Ah, parce que nous avons beaucoup de cours d'eau.
Oui, merci beaucoup Arsène. Je sais que vous avez beaucoup à dire, mais le temps nous presse. Nous avons aussi Flavien qui est à Goma. Et dis-nous un peu, Flavien, en Nord-Kivu. Est-ce que chez vous, on a tenté quand même de pouvoir réglementer cette coupe de bois?
Oui, en tout cas, comme on a remarqué qu'il y avait beaucoup de constructions ici, les maisons sont en planche, il y a aussi, je ne sais pas, les histoires des meubles.
Mm-hmm.
On a essayé, il y a les organisations locales qui ont tenté plusieurs méthodes, telle que la méthode que venait d'expliquer l'expert qui est au plateau en ce qui concerne les briquettes à biomasse.
Mm-hmm.
Il y a aussi les gens qui sont en train de tenter d'expérimenter l'histoire des biogaz comme ce qui s'est fait au Rwanda,
oui.
Donc les biodigesteurs.
Mm-hmm.
Et alors, on pourrait voir comment on va réglementer cela. Mais c'est que le problème se pose au niveau de la sensibilisation. Il faut que vraiment la population puisse prendre une conscience de laisser d'abandonner l'utilisation des bois ou des baies et adopter l'utilisation des briquettes à biomasse.
Merci beaucoup à Flavien qui nous appelait de Goma. Merci beaucoup Flavien. Merci beaucoup Arsène qui nous appelait de Kikwito Banundu et à l'EMS de Lubumbashi. Nous revenons dans ce studio avec notre invité, M. Léon Kanumbidi. Vous avez suivi tous nos trois derniers auditeurs. Il était question de souvent on coupe le bois pour le bois de chauffage. Et quelles sont en fait les propositions que vous pouvez faire à ces populations? Vous avez parlé de changer notre façon d'utiliser, au lieu d'utiliser la braise, on peut utiliser les biogaz, comme certains l'ont dit. Mais est-ce qu'il y a autre chose que vous pouvez rajouter à nos auditeurs?
Je crois que ceux qui ont été attentifs tout au long, ils ont aussi saisi qu'une des portes de sortie, c'est de planter pour que nous ayons suffisamment de bois. Parce qu'effectivement, il y a un certain volume qui sera toujours nécessaire pour continuer à approvisionner les populations. Donc, il faut pouvoir combiner l'énergie électrique, l'énergie qui vient du bois, ainsi de suite. Mais il faut qu'il y ait une disponibilité. Et cette disponibilité, il y a des coins du pays où on l'a déjà compris, entre autres dans le nord Kivu. Lorsque vous faites la route Goma-Butembo, ben, tout au long, vous allez trouver des eucalyptus plantés depuis de nombreuses années.
Mm-hmm.
Et je crois qu'il faut faire la vulgarisation pour que partout où on a besoin de bois, on puisse s'investir effectivement dans le reboisement pour produire ce bois-là.
Merci beaucoup, Monsieur Léon Kanumbidi. Merci beaucoup à tous nos auditeurs qui ont pu participer. C'est ainsi que nous arrivons à la fin de notre émission. Notre invité, c'était, comme je l'ai dit, Monsieur Kanumbidi. Il est le coordinateur national de RED, une structure chargée de contrôler la réduction des émissions issues de la déforestation et dégradation tropicale. Merci encore une fois à vous, les auditeurs, qui avez participé à cette émission. Nous nous excusons auprès de ceux qui n'ont pas eu l'occasion de passer sur les antennes, faute de temps. Nous savons que vous étiez très nombreux et vous continuerez à être nombreux. Et prochainement, nous allons parler, donc demain, il sera question de la dévaluation du franc congolais qui se poursuit. Le dollar se change aujourd'hui à plus de 900 francs à Kinshasa, presque le double de la valeur il y a une année. La question, comment l'expliquer? Selon vous, quelles mesures doit-on prendre pour freiner cette dévaluation de la monnaie nationale et préserver le pouvoir d'achat de la population? Vous pouvez réagir dès à présent par internet à l'adresse pa@radiocapi.net. Merci à toute l'équipe et à demain.